sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Ledio et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard. Réalisation signée Daniel Finot. Ce soir, Corinne Rondeau et Olivier Lam se font face à notre affiche Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa, un coffret Blu-ray, DVD, livret. C'est une collection Kurosawa des années tôt, chez Wildside. Et puis nous parlerons de la ressortie en salle de Cul-de-sac de Roman Polanski. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler des films de fiction nazis interdits depuis la guerre. Et puis nous ferons gagner des cadeaux ce soir, des DVD du film L'Ornithologue de João Pedro Rodrigues, distribué par Épicentre. Et nous ouvrons cette émission avec le film qui a ouvert le Festival de Cannes mercredi dernier, qui est sorti le jour même dans les salles, Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin, présenté hors compétition, ce qui vaut peut-être mieux pour un cinéaste présent déjà 5 fois en compétition et toujours reparti bredouille. Pour autant, il a reçu en 2016 le César du meilleur réalisateur. C'était pour 3 souvenirs de ma jeunesse. Et ce nouveau film brasse là encore nombre d'obsessions et renoue, dénoue de nombreux films présents dans la filmographie d'Arnaud Desplechin, de la maison familiale de Roubaix, notamment dans Un conte de Noël, à L'espion de la sentinelle, en passant par Dédalus, Esther, Sylvia, des noms et prénoms, comme des jeux de piste dans les films du cinéaste.
Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël.
Vous n'avez pas d'enfant ?
J'ai aimé des hommes mariés.
Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de chance, quoi.
Ah ben non, aucune. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme ?
Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie.
Où ça ?
Je l'ai jamais su.
Toi, tu y penses ?
Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme.
Vous êtes Sylvia ? La compagne d'Ismaël ?
Oui ?
Je suis sa femme.
Carlotta. Je crois que j'ai vu Carlotta.
Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle.
Elle est en vie. Elle t'attend en bas.
C'est moi.
Oui.
Ça fait combien de temps ?
21 ans, 8 mois et 6 jours.
J'aurais préféré qu'elle soit morte.
T'existes plus.
J'ai besoin de toi.
Moi, j'ai pas besoin de toi.
Qu'est-ce que t'es venu faire ici?
Oh, je crois que tu le sais.
Je te plais quand même?
Quand même.
Tu vas y arriver.
Je suis terrifiée.
Je veux pas que t'aies peur. Je veux pas que t'aies peur, maman.
Vous devez aller au ministère public, ils annuleront le jugement. Vous pourrez récupérer votre patrimoine.
Est-ce que je peux récupérer mon mari ?
Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin en salle depuis mercredi dernier. Alors en salle en 2 versions, disons-le tout de suite. Une version d'1h50, baptisée VF, c'est-à-dire version Frémaux, celle qui a été projetée au Festival de Cannes, et une version originale, celle complètement signé Arnaud Desplechin, qui est présenté dans quelques salles, plutôt rares. Donc c'est quand même une chose à savoir pour les spectateurs qui voudraient choisir s'ils en ont la possibilité. Il se trouve que nous trois, voilà, tributaires de beaucoup de choses, nous avons vu la version d'1h50. C'est donc de celle-là que nous allons pouvoir parler. Olivier Lam, pour commencer, sur ces fantômes d'Ismaël.
Oui, la bande-annonce qu'on vient d'écouter a fait peur à beaucoup de monde quand elle a été découverte, notamment pour cette facture mélodramatique un petit peu inhabituelle pour Desplechin, qui est quand même un cinéaste qui est plus habitué à nous brutaliser un petit peu. Et il se trouve que la qualité mélodramatique du film n'est pas du tout celle qu'on vient d'entendre dans la bande-annonce. Même les petites phrases extraites, montées, etc., sont souvent sorties de leur contexte, n'ont pas du tout le même sens quand on les découvre dans la trame narrative du film.
Ah, je me passe si souvent des bandes annonces, mais c'est vrai que c'est une
première
pour vous.
La musique est absolument.
Les musiques sont à 99% des bandes annonces, ne sont pas dans la bande originale des films.
Voilà, et c'est donc pour les gens qui seraient éventuellement qui auraient pu être effrayés par cette bande annonce, allez voir le film quand même si vous êtes. Adepte notamment du cinéma de Desplechin, puisque c'est un film éminemment desplechinien, je sais pas comme ça qu'on dit, je sais pas le terme consacré.
Vous pouvez le déposer ce soir.
Pour autant, c'est pas un chef-d'œuvre, et c'est pour ça que je trouve le film d'autant plus formidable, parce que ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un film qui est vraiment débordant, littéralement, de vie. Et la vie, on sait que c'est pas, contrairement à la fiction, ça peut être un peu sale, un peu incohérent. Pourtant, il y a énormément de fiction dans le film. Il y en a même trop. C'est un film qui est débordant de fiction, ce qui explique sans doute pourquoi il y a deux versions du film. On a l'impression que le film a des lambeaux de fiction qui flottent un peu comme ça au vent et qu'on pourrait venir y rattacher d'autres idées, d'autres fictions. C'est pas la première fois que les films de Desplechin ont cette facture. Conte de Noël était un peu comme ça, avec des intrigues cachées sous d'autres intrigues, avec un moment, une impression de saturation un peu étrange. C'est un film où tout le monde est psychotique. Et tout le monde passe son temps un peu à s'entrechoquer. Tout le monde est un peu à la limite de au bord d'une rupture. Le jeu d'Amalric est particulièrement, je pense qu'il a jamais été aussi excessif. Et en même temps, il reste toujours du côté de quelque chose du bon côté de l'excès. Le film joue avec le feu tout le temps, comme à un moment Mathieu Amalric, le personnage d'Ismaël joue avec un revolver et finit par. Bon, je vais pas en dire plus.
Non.
Mais c'est un film qui m'a énormément touché, énormément déstabilisé aussi. Mais je pense que c'est Desplechin est un moment de son cinéma où il cherche énormément et ça se sent. Et c'est un film qui, je pense, n'a pas fini de livrer ses secrets.
Voilà pour un premier regard. Vous allez développer quelques-unes des pistes. Corinne Rondeau sur les fantômes d'Ismaël.
Alors moi j'ai trouvé ce film, 1h50, hein, on est d'accord, donc peut-être que peut-être que le film de 2h20 qui est 2h10 au Panthéon a quelque chose d'autre. Mais pour moi c'est un film surjoué, surscénarisé, surdialogué. C'est, de mon point de vue, ça a été un grand ennui de voir ce film. Dans la période de du visionnage, dans le retour de ce film, dont je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir, vraiment beaucoup, j'ai eu l'impression que Desplechin, dont j'avais adoré Sentinelle, qui pour moi reste un de ses films les plus forts, parce que c'est le thriller qui est aussi traversé par la disparition, qui hante quand même son cinéma, et que par ailleurs, là, j'avais l'impression qu'il était dans une entreprise de démolition du cinéma. C'est-à-dire qu'à l'endroit où le cinéma peut nous échapper sur une forme de suspens, il vient mettre quelque chose qui l'interdit, par exemple. Alors, j'ai pas de scène exactement, ça va me revenir peut-être en parlant.
Mais
il m'est, non, mais voilà, il m'est arrivé de me dire, là, cet endroit-là, ça aurait dû être un suspens, et en fait, on a comme une réponse. Et donc, entre cet écrivain Ismaël, dont en fait le film commence.
Cinéaste.
Oui, mais il écrit un scénario.
Oui.
Et en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est le scénario qu'il écrit et sa propre vie qu'on voit entre deux femmes, Carlotta et Sylvia. Et donc, en fait, ce film, quand il commence, on a d'abord une fiction dans la fiction, puisqu'on commence par le scénario. Et en fait, là où on pourrait voir un film, quelque chose est bancal. On se dit, le décorum n'est pas tout à fait là, ça surjoue. Puis après, on passe de l'autre côté de celui qui écrit. Et puis on va dans des flashbacks. Donc il y a une manière de vouloir monter le film à côté d'une fiction et en même temps en croisant les temps. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de désorganiser quelque chose. Puis ensuite il y a le retour. Alors le retour était déjà là puisque la femme qui avait disparu s'appelait Carlotta. Alors quand on est un peu cinéphile, c'est Carlotta, on ne le sait pas. Hein. Bon voilà.
Vertigo, Hitchcock.
C'est Vertigo d'Hitchcock, mais c'est aussi la femme perdue et le fantasme de la femme quand on sait
c'est l'attachement. C'est le tableau de Laura aussi.
Oui, mais c'est aussi tout l'attachement de la psychanalyse et lacanienne de Desplechin, dont Dédalus est aussi James Joyce. Bloom, dans le film, c'est le personnage d'Ulysse. Et on voit très bien qu'au bout d'un moment, on se demande à quoi ce film conduit Desplechin. Alors moi, je crois... Alors vous avez parlé de psychotique, je crois. Alors... La dimension du symptôme chez Lacan, c'est justement la psychose. Donc, on a l'impression que Desplechin, après le Jimmy P, moi, je me suis arrêtée de voir les films de Desplechin à ce moment-là. Je trouvais que c'était... je vais vous raconter mon analyse sans être mon analyse.
C'était vraiment là, le film où Mathieu Amalric surjouait le plus.
Ouais,
il
mais
était
là,
vraiment
je veux dire,
cabot, là. Vraiment, Jimmy P,
oui,
c'était pas possible.
Amalric...
Pardon?
Il surjouait d'une autre manière.
Oui, il surjouait beaucoup.
Mais Amalric surjoue encore, là. C'est une espèce d'automate... on ne sent rien, on comprend tellement qu'on est un peu fatigué, il y a des portes tout ouvertes à n'en plus finir et des manières de vouloir la fermer qui ne sont pas des fermetures. Donc j'ai l'impression qu'à force de théâtraliser son cinéma, et là c'est vraiment une théâtralisation je trouve extrême, il fait tout tomber à plat. Alors... Soit Desplechin qui a fait La Sentinelle et qui en a fait d'autres, Esther, qui sont des films absolument remarquables et qui depuis Jimmy P me paraissent quand même avoir une faille lacanienne, une faille interprétative, voulant échapper à l'interprétation tout en jouant avec elle, je trouve qu'il se met les pieds dans le tapis et au bout d'un moment on a envie de dire s'il fait des films... Pour les gens qui peuvent le comprendre, il faut qu'ils le fassent effectivement qu'au cinéma Panthéon.
Ah oui, mais moi je crois... Alors, j'ai pas la même analyse. Moi, je me suis dit peut-être un peu entre vous deux, parce que moi, pour moi, le film s'est bonifié durant le temps de sa projection. 1h50, encore une fois, je le précise, pas les 2h10, parce que effectivement, j'ai eu peur au début de ces dialogues très empoulés, ce mauvais jeu, bon, avant de comprendre qu'il s'agissait d'une fiction dans la fiction. Qu'évidemment, de toute façon, le film n'est qu'une histoire de double. On parlait de Mulholland Drive la semaine dernière, je ne le compare pas, mais on est vraiment dans cette thématique du double constant dans ce film d'Arnaud Desplechin. Mais effectivement, appeler ce personnage Carlotta, ce clin d'œil très appuyé à Hitchcock. Et en fait, cette dimension appuyée qui, pendant un certain temps, m'a gêné, m'a embarrassé. Et en fait, c'est par là aussi que j'ai fini par trouver mes marques dans le film. Parce qu'il me semble... alors peut-être qu'il se prend les pieds dans le tapis Arnaud Desplechin, mais que c'est une des premières fois où je le vois jouer, enfin jouer avec son matériau, mais jouer aussi avec le spectateur. Et de fait, comme le film ne cesse de redoubler les couches narratives, les personnages, les situations, etc., mais évidemment aussi le réel de la fiction du réel, etc., etc., ça en fait un film qui tient pas droit du tout, et c'est pour ça que je le trouve quand même plutôt plus intéressant que des choses très fermées comme Jimmy P, qui pour moi sont effectivement son plus mauvais film. Donc voilà, j'ai une impression un tout petit peu voilà entre vous deux pour l'instant, mais j'attends qu'Olivier Lam précise sa pensée lui aussi.
Non, mais c'est-à-dire que je crois qu'il essaie de créer un espace qui sera un espace d'après. Il a un peu tout dit, on va dire, si on veut faire une psychanalyse sauvage, il a un peu tout, il a un peu fait le tour de... Alors si voilà, en termes d'analyse, il est un peu au moment où on s'en prend à ses parents et on leur en veut un peu à mort. Et là, en l'occurrence, ses parents de cinéma. J'ai l'impression que toutes ces indices très clignotants de cinéma Hitchcock, Joyce, etc., etc., y compris et les indices aussi qui se réfèrent à son propre cinéma. Finalement, il nous les désigne comme tels, et que finalement, de la même manière que la facture de son film dans le film est extrêmement étrange, moi j'ai l'impression qu'il est en totale maîtrise en fait de ce qu'il essaye de fabriquer comme tonalité, et que finalement il peut se permettre d'être après un jeu réaliste, après une forme de sérieux, une forme d'humour. Il essaie de créer un espace de son, de parce qu'effectivement, il est un peu dans un après de son propre cinéma, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de faire un discours un peu méta, un peu pénible. Mais, et effectivement, je trouve le film très ludique à ce niveau-là. Et assez amusant, en plus, assez drôle. Même si l'histoire est assez pesante. Sa manière de dégager les thématiques de son film, qui sont largement exposées dans la bande-annonce, notamment de dégager le personnage de Carlotta, je trouve prouve à quel point finalement ce qui l'intéresse c'est de créer des situations et pas de poser quelque chose de définitif qui serait de l'ordre d'une autobiographie romancée, etc. On est vraiment dans un entre-deux, je trouve assez vibrillonnant, et c'est pour ça que je trouve le film assez passionnant. Je me réfère à cette scène, moi, qui m'a énormément ému, où on voit Marion Cotillard danser sur une chanson de Bob Dylan, It Ain't Me Babe, et devant Charlotte Gainsbourg, qui est absolument ébahie, amusée, embarrassée, et le spectateur à son tour est obligé d'être embarrassé. Et je pense qu'à cet endroit-là, par exemple, il fait référence à ce moment où, dans la carrière de Marion Cotillard, où elle jouait dans ce blockbuster là de Batman, où le monde entier s'était moqué d'elle parce que elle mourait à l'écran et on voyait son dernier souffle. Et c'était littéralement, ça ressemblait à un truc de série Z où on disait je suis morte, enfin comme des enfants qui jouent, et elle fermait les yeux et c'est voilà, et c'était fini, avec une espèce de râle un peu ridicule. Et là, on revient sur cette manière de, je sais pas, d'humilier un peu Marion Cotillard à l'écran, et je trouve que ça provoque quelque chose de très subversif, en fait, vraiment, à l'intérieur du cinéma français, de son petit système, etc. Des Pléchins, dont on a beaucoup dit il y a une vingtaine d'années, que c'était vraiment l'incarnation la plus exacte du cinéma intello, de prof de philo en chambre de bonne, et dont on sait depuis très longtemps qu'il fait absolument autre chose, hein. Même à l'époque où à l'époque de Comment je me suis disputé, où il nous racontait voilà ses errances de prof de philo sur fond de musique dissonante, il était déjà dans la recherche d'un après. Et moi j'ai l'impression que Desplechin est toujours dans un il est toujours en recul par rapport à ce qu'il essaie de nous montrer. Alors, c'est peut-être lui faire trop d'honneur, mais moi, je trouve que son cinéma est toujours passionnant à regarder, un peu défaillir, voilà.
Corinne Rondeau.
Oui, vous avez amorcé un mot méta, parce que moi je suis sortie en me disant il fait son métafilm, il fait son film sur le cinéma, parce qu'on non mais là on a une sorte de somme, on a le cinéma muet avec les ombres chinoises, on a toutes les références qu'on a évoquées, plus les siennes, etc. Moi, j'ai fini tout à l'heure ma première intervention de manière pas très sympathique en disant si, voilà. Parce que pardonnez-moi de vous le dire, tout le monde n'a pas lu Joyce et le monde n'a pas vu non plus Vertigo.
Enfin, tout je veux dire, le cinéma ne connaît pas son Lacan par cœur.
Oui, bon, voilà, mais je veux dire, il y a un moment donné où il faut peut-être se dire, voilà.
À qui on s'adresse ?
Non, mais tout à l'heure, vous disiez, on les a reconnus. Non, il n'y a pas tous les spectateurs qui peuvent reconnaître toutes les références dont ce film est totalement miné. Par ailleurs, pour moi, il n'y a pas de rapport ludique. J'ai pas vécu de manière ludique. La fin, je l'ai trouvée absolument pathétique avec ce caméra. Plan fixe, face caméra de Charlotte Gainsbourg, au secours.
Je me rappelle même.
Je crois que c'est le même à la fin des 2h10 aussi, dont vous ne raterez rien. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, ce film, alors, peut-être, c'est réduire la somme à, voilà, qui me connaît me comprendra et prendra du plaisir. Et peut-être j'ai raté des références. Et donc,
ça m'étonnerait, voilà. Corinne.
Ou alors, effectivement, et c'est là où je trouverai les choses plus intéressantes, c'est son dernier film. C'est-à-dire qu'il va le casser. Non, mais il va casser son cinéma. Pas pour dire qu'il va arrêter de faire du cinéma, c'est pas ça. Ou alors devenir écrivain. Parce que je pense que la tentation de l'écriture chez lui est de plus en plus forte. Et je pense que sa manière de chercher la référence et de se dire finalement peut-être que l'art du siècle, c'est toujours le cinéma aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait encore écrire ? Peut-être qu'on peut écrire au cinéma. J'ai eu la sensation qu'il avait cette tentation dans ce dernier film et que cette manière de fragmenter en faisant une somme par ces fragmentations le conduisait à rejouer sans arrêt, donc surthéâtraliser pour ne pas être dans un réalisme absolu, mais par ailleurs, avec tous les genres qui traversent le film, mais je crois que soit, et j'ai raison, et c'est tant mieux, ce film est une entreprise de démolition de son propre cinéma pour,
théorie intéressante,
cette fois-ci, abandonner, c'est-à-dire lâcher les signifiants à ce point-là, c'est-à-dire, pas les signifiants en tant que tel, hein, mais lâcher le discours pour la parole. Et j'aimerais de la parole comme on l'a connu dans le cinéma de Desplechin.
On s'arrête là pour Les Fantômes d'Ismaël, film d'Arnaud Desplechin. Allez voir par vous-même, le film est sorti en salle mercredi dernier.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Akira Kurosawa et Roman Polanski, rien que ça, mais avant cela, on suit Xavier Martinet dans Le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, mon vocabulaire d'allemand étant immense, comme chacun le sait, je dirais verboten.
Verboten.
C'est bien ou pas?
Verboten.
Verboten. Bon, et reprenez pas mon accent là en plus. Verboten.
Allez, ce sont les films interdits, verboten film, ce documentaire de Félix Möller, qui est à la fois une thèse et une plaidoirie. Une thèse d'abord parce qu'il veut démontrer la puissance du cinéma nazi, moyen de propagande principal pour Goebbels, qui en a fait produire avec succès 1300 entre 1933 et 45, et de fait le seul chiffre de 20 millions d'entrées en Europe pour ce célébrissime, malheureusement, Juifsus faisait rêver s'il ne s'agissait pas d'une arme de propagande mortelle. Et puis plaidoirie aussi parce que ce documentaire vise à rendre disponibles les 40 derniers de ces films interdits en Europe après-guerre, du moins à poser la question de la diffusion plus large de ces fictions toxiques, comme l'appelle la presse, à l'heure où, souligne l'historienne Sylvie Lindenberg, on peut les voir mais morcelés et sur Internet. Alors le documentaire a été diffusé sur Arte en 2015 et puis les films interdits sortent donc en DVD chez ESC Distribution en ce moment. Il présente certains de ses films classés par anti-français, anti-russe, antisémite, patriotique, même si ce n'est pas la classification officielle nazie. Les titres sont Le Juifsus, bien sûr, Les Rothschild, Stukas ou Je suis un assassin. Et l'intérêt principal, outre formel, et qu'il est assez riche de ce documentaire, est de se concentrer sur leur pouvoir de propagande réelle. Alors spécialiste du brouillage des cartes, ces films, comme le dit l'historien Claude Singer, on voit en tout cas l'extraordinaire capacité de recyclage cinématographique de la production nazie. Pour ne prendre que le Juifsus, par exemple, c'est d'abord le détournement d'un succès littéraire et de cinéma de l'époque, dont un film anti-nazi de Lothar Mendes. Ensuite, c'est un film subtil, puisque toute la structure du film de Veit Harlan reprend celle de Nosferatu, de Murnau. C'est ce que précisait Samuel Blumenfeld dans Le Monde. Et puis un film, troisièmement, efficace, puisque même Antonioni l'avait jugé un film incisif, distrayant et intelligent. Autre exemple, un film qui s'appelle Heimkehr de Gustav Hutschicki, qui lui met en scène des Allemands persécutés en Pologne. En fait, tout est inversé, remarquait Sylvie Lindenberg dans Le Monde. Autodafé, déportation, torture, tous ces actes commis par les Allemands sont attribués cette fois aux Polonais. Un jeune sans culture historique, ajoute-t-elle, peut se faire piéger. Alors le cynisme est extrêmement bien maîtrisé. Dans certains plans, il est flagrant. Et avec le recul, comme ces Allemands qui sont tassés par dizaines dans ce film Heimkehr, contre des barreaux de prison, alors que la même année 1941, les convois de juifs traversaient l'Allemagne et l'Autriche vers les camps de la mort, eh bien ces plans font froid dans le dos, comme si le film avait réellement préparé le terrain psychologique qu'il était fait pour ne pas voir. Même chose dans Le Président Kruger, un film sur les exactions britanniques contre les Bourses en Afrique du Sud. Pour certains de ces films, il y a un véritable art de déplacer presque dans l'inconscient les messages de propagande, de les dissimuler dans le récit et l'image, et puis il y a aussi du moins subtil, Stuka, donc le célèbre avion à sirène fer de lance de la Blitzkrieg, est plutôt une propagande assez plate, alternant chorale patriotique, flotte d'aéronefs dans le soleil et scènes de bombardement et destruction montées, disons, à la hache. Pour le cinéma nazi, en tout cas, on voit que tout est bon à prendre. Sylvie Lindenberg rappelle que le public de l'époque était quand même privé du cinéma hollywoodien et qu'il était avide de grands spectacles. J'apporterai seulement deux nuances pour terminer. Elle décèle des failles dans un des films célèbres mais pas montrés dans ce documentaire, Theresienstadt, sur les camps de concentration, un mensonge évidemment, les arrière-plans, les détails, les gestes des personnages secondaires, toute une série de signes infimes qui trahissent le film. Et puis tous ces films n'ont pas eu la même, disons, n'ont pas été produits de la même manière par les nazis, n'ont pas eu la même autorisation ni contrainte d'ailleurs. Alors leur diffusion aujourd'hui serait-elle dangereuse? Une chose est glaçante en tout cas, il me semble, c'est que la majorité de ces films anti-juifs, en tout cas produits en Allemagne, l'ont été entre 39 et 41, 15 films en 3 ans. Or cette période, vous le savez, coïncide avec la préparation de l'extermination qui se termine avec la conférence de Wannsee. Alors grossièrement, le documentaire nous montre que les Allemands sont plutôt très prudents sur leur diffusion, les Français sont partagés et les Israéliens trouvent plutôt qu'il s'agit du passé. Selon vous, alors, où faudrait-il montrer ces films?
Alors, ces films, bah oui, d'abord, ils ont été quand même très largement montrés. Moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé dans ce documentaire, c'est le fait qu'il y a eu, en 2012, en Allemagne, 120 millions de spectateurs en salle. En 1943, 1 milliard d'entrées pour l'Allemagne. C'est un chiffre qui laisse assez pantois, Corinne Rondeau.
Bah oui, comme je veux dire, culture de divertissement, il y avait que le cinéma déjà, et puis effectivement, ils étaient sans doute friands dans une Allemagne qui est très conquérante quand même. C'est la période où tout va plutôt bien pour eux, on va dire. Mais oui, ce sont des chiffres astronomiques puisque
1 milliard d'entrées en scène.
Oui, c'est considérable. Puisqu'Avatar, quand c'est sorti, ça n'a fait que 11 millions d'entrées en Allemagne, alors que le Juifus en 40 en faisait 20. Donc effectivement, le divertissement a tout son impact et il y a toujours, enfin le cinéma a servi de propagande, ben voilà, dans un cadre idéologique. Aujourd'hui, on pourrait parler de la violence au cinéma, c'est aussi un caractère propagandiste sur des perceptions de jeunes. Le film est tout à fait didactique, il peut être un peu lourd parfois, mais il est nécessaire pour voir l'éclatement du cinéma nazi, hein, puisqu'il n'y a pas que le film anti-juif qui est...
Il y a toutes les sous-catégories.
On a quand même l'euthanasie aussi, qui est absolument... qui vous fait froid dans le dos, puisque l'intérêt du film, c'est qu'en fait, il est monté sans commentaire. Et il a l'avantage...
des entretiens de spécialistes.
Voilà. Hein, donc, on tend le micro à des spécialistes, et on tend le micro aussi à des publics qui sortent des projections de films. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas répondre à votre question, Xavier, dans la mesure où ce film nous démontre que, selon la culture que l'on a, eh bien, on ne réagit pas de la même manière. Les Israéliens estiment que c'est du travail, il faut travailler sur ces films, il faut les expliquer. Les Allemands estiment qu'il faut les voir en étant encadrés. Et les jeunes Français qui l'ont vu au centre Wallonie, qui ont vu le Juifus, qui sans doute étaient des études cinématographiques à Paris 3, ont tous levé la main pour dire « il faut interdire ce film ». Et donc c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, la culture n'est pas la même à travers ce qui s'est passé et ces 80 ans. Sauf qu'on a des spectateurs à l'issue de ça, dont, je dirais, leur commentaire vous fait froid dans le dos. 80 ans après ce film, ils sont sensibles à ce qu'ils ont vu. Ils ont une émotion qui est violente et en même temps, ils n'arrivent pas à s'empêcher de dire « le film est très bien fait ». Comme certains commentateurs professionnels qui n'arrivent pas tout à fait à ne pas rendre justifiable que tel grand acteur allemand n'ait pas pu jouer pour le cinéma allemand nazi. Et là, on se dit, on est 80 ans après cette affaire désastreuse du XXe siècle et on ne sait toujours pas prendre la position, la bonne position. Je crois que la position doit se prendre au cas par cas, comme le CNC le fait pour certains films avec autorisation. Et le film, je pense, il faut avoir ça dans sa bibliothèque, parce qu'il faut sa médiathèque, il faut le montrer. Je pense qu'il faut dire que c'est comme un Glorious Bastard, puisque le film commence sur les films nitrates, qui explosent, parce que c'est pour ça qu'il y a une butte face à ce centre de documentation. Parce que si ça prenait feu, bien, il y aurait une explosion, tout partirait en fumée.
Olivier Lam.
Ouais, j'ai trouvé le film un peu trop didactique, moi. Enfin, c'est vraiment un film de télévision. D'ailleurs, qui se termine sur la phrase il faut que ça cesse. Hein. Donc, il finit par prendre parti d'une manière un petit peu paradoxale par rapport à tout ce qui a été dit dans le film juste avant. Moi, j'avoue que c'est un film qui m'a rendu très curieux d'en voir plus, en fait. Parce que les années 30-40, c'est un grand moment pour le cinéma partout dans le monde. C'est un moment où on a inventé énormément de formes. On va parler de Kurosawa tout à l'heure. Bon, quelques années plus tard, mais enfin...
On peut relire Siegfried Krakauer de Caligari à Hitler, ouvrage référence sur ces années-là.
Mais très clairement, les réalisateurs de ces films avaient... avait des yeux, hein, comme il est, enfin, on le sait, on a vu Les Dieux du Stade de Lynyrd Ehrenstein, qui continue à être un film qui continue à fasciner, qu'on peut regarder parce qu'il est moins, on va dire, en termes de propagande, il est à la fois plus lisible et un petit peu moins sulfureux. J'avoue que j'ai été vraiment frappé par notamment ce film là, I'm Care, qui montre donc cette inversion.
C'est Retour au foyer, hein, c'est ça en français? Oui, moi j'ai noté en français, excusez-moi, on a une petite note.
Voilà, qui est d'une... c'est
voilà pourquoi il faut envahir la Pologne.
Non, mais il y a ce moment absolument incroyable où donc il finit sur une scène qui a l'air d'être absolument calquée sur la fin du Dictateur de Chaplin, où cette comédienne, je me souviens plus son prénom, qui était une star du cinéma allemand de l'époque, sur une musique très romantique, dit un jour peut-être nous aurons le droit de parler l'allemand et nous ne serons pas obligés de parler le polonais. Ou l'yiddish. Moi, j'avoue que là, ma gorge, c'est un peu serré. Oui, c'est un documentaire qu'il faut voir. Pourtant, la réponse à cette question, est-ce que ces films doivent être vus, moi, je pense qu'ils doivent circuler un maximum, effectivement, de manière toujours encadrée, dans le cadre
licite.
De projection. Mais licite, absolument, exactement comme Mein Kampf, dont on sait que la ressortie en Allemagne a fait un tabac en librairie. Mais
avec l'édition critique.
Avec l'édition critique, mais évidemment, pas imposante. Parce que les gens, si, je pense, s'y retrouvaient, puisque de toute façon, les gens qui sont éventuellement sympathisants des choses...
N'attendent pas ces sorties pour les voilà, avoir chez eux.
Voilà, pour se les procurer, et on peut très facilement se procurer et de la littérature et du cinéma antisémite sur Internet aujourd'hui. Donc voilà, donc ces films doivent être vus, ils doivent être critiqués, ils doivent être surtout pas cachés. Enfin, ça, c'est
vous avez Martinet.
Oui, je voulais revenir sur deux choses simplement. Effectivement, ce que vous disiez, Corinne, sur les mérites du documentaire, peut-être cette manière d'approcher le public et aussi particulièrement le public allemand, de montrer les débats au sein du public allemand aujourd'hui, de montrer aussi les proches des anciens acteurs, ce qui nous fait quand même donner un aperçu, un léger aperçu en tout cas, de ce qui se passait au sein du cinéma allemand, puisque certains ont émigré, d'autres sont restés, parfois malgré eux, parfois certains sont justifiés, enfin c'est compliqué. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est outre la question de la simplement diffusion, on apprend aussi dans ce film que certains films avaient été en quelque sorte dénazifiés dans les années 80, c'est-à-dire qu'on les avait épurés, coupés de certains symboles ou scènes nazis, guerriers. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un moyen aussi, moi ça m'a semblé très dommageable, et effectivement je pencherais plutôt comme Olivier Lam et comme Oscar Roller, réalisateur qui est montré dans le documentaire, pour avoir au moins une vingtaine de ses films disponibles comme excellent exemple de propagande.
Oui, c'est un peu étrange, les films purifiés.
C'est comme enlever le Moniker de Culberry Finn, de Mark Twain, enfin c'est complètement on ne peut pas s'en sortir comme ça avec l'histoire, on le sait. Enfin, c'est...
Corinne Rondeau.
Oui, en termes d'histoire, c'est évident. En même temps, comme ces films ont une très grande qualité formelle, c'est comme ça aussi qui fascine. On veut montrer aussi des films, mais on veut les nettoyer. Donc c'est évidemment très, très dangereux. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'un beau film est aussi un film qui est insupportable. Et je dois dire que la grande force du cinéma nazi, c'est justement tout le rapport à la victimisation. Et ça, c'est, comme Olivier, c'est sidérant. Je veux dire, non seulement certaines interventions de spectateurs après les films vous donnent la nausée, mais en plus, cette manière de penser le cinéma pour dire c'est nous les victimes. Et là, vous vous dites, mais cette question, la victimisation, elle est actuelle. Et donc, il faut se rendre conscient de certains mécanismes psychologiques qui produisent de l'idéologie à travers la victimisation, c'est-à-dire à l'endroit où on ne peut pas frapper, à l'endroit où on se dit bah, il faut sauver celui qui est humilié. Et donc quand on vous met ça dans la tronche et que vous êtes un peuple entier à dire où se trouve effectivement la contradiction, où se trouve la liberté d'expression pour que justement ça se frappe un peu, quoi, au niveau intellectuel. Ça, c'est effrayant. Quand on a les chiffres que vous citiez, Arnaud, tout à l'heure, on se dit, tout le monde était d'accord pour... Puisqu'il y a même des jeunes de 20 ans qui disent « Mais ce film est tellement beau, moi j'ai compris qu'en fait, c'était normal qu'on ait fait la guerre aux Polonais parce que c'est de leur faute. Le type a 20 balais. Parce que le film est bien fait. Et là, c'est... Voilà, tout se dit. »
Vous rappelez le titre, le réalisateur, l'éditeur du DVD
de Félix Möller, c'est ECS Distribution qui le diffuse et c'est depuis début mai dans tous les bons revendeurs.
Ah.
Allez, on va changer de sujet pour un deuxième film à notre affiche ce soir. Une superbe édition DVD, Blu-ray, livrée chez Wildside du film d'Akira Kurosawa Entre le ciel et l'enfer. Édition alors pléthorique puisque faisant partie d'une collection de 17 films, édition en cours, sous l'intitulé Les années tôt, du nom du studio de cinéma pour lequel le cinéaste japonais travaillait à l'époque. Ce sont des films dans cette collection qui vont de 1943 à 1970. Entre le ciel et l'enfer, sorti en 63, suit les mésaventures d'un homme d'affaires dont, au début du film, le fils est kidnappé.
Ça, à sa chose, hein ?
という日だ。こんな奇妙な天気は随分見たこともない。
死んでもら
う。まったくバカにつける薬はねえな。
何？
Entre le ciel et l'enfer. Alors, on sait lequel choisir. Hein. Enfin, en tout cas, ce sera une des conclusions du film. Mais ça, c'est, on ne va pas la dévoiler ni la divulgâcher ici. Bonheur, Corinne Rondeau.
Ah oui, je n'ai pas décroché de ce film.
Qui fait quand même 2h20 ou 25.
Oui, je crois à peu près. Non, c'est... Alors, le film est d'une structure peut-être trop classique, mais tellement remarquable.
Classique et très bizarre en même temps. Oh. On va le développer.
Mais c'est surtout en fait que tout est au bon emplacement, que le timing est impeccable, que le jeu des corps, puisque le film est en trois parties, on va dire, il y a un huis clos, il y a une enquête policière, et puis il y a un dénouement, voilà. Mmh. Et donc la première heure, c'est le huis clos. Un homme est en train d'essayer de faire une transaction pour s'en sortir, se racheter une entreprise. Il se trouve que, comme vous l'avez dit, son fils est kidnappé. Et que finalement, il va se passer autre chose autour de ce kidnapping. Mmh. Et que là-dessus va se jouer, mais comme une partie de ping-pong sans arrêt, l'engagement humain de cet homme. Va-t-il donner la rançon pour ce fils ? Ou sauver son engagement financier.
Sauver sa carrière. C'est la ruine ou l'honneur.
Et là, le film déjà vous met dans un rapport très tendu, qui n'est pas tout à fait de la psychologie. Et on a un film quand même qui est très nourri par le cinéma américain, qui est marqué sur son propre territoire, géographiquement et géopolitiquement, par les Américains. Et ce film, en fait, traverse aussi ce rapport entre le Japon, un certain type de morale japonaise, et la nouvelle culture qui vient sur son territoire. Puisque la question de l'argent, c'est aussi la question du capitalisme, et que il y a une scène absolument extraordinaire dont on a entendu la bande-son dans le bar, où les gens sont habillés comme des Américains, il y a des militaires américains.
Tout d'un coup, il y a des grands noirs qui arrivent, et on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des Américains au Japon quand même
». Toute la question du film, c'est jouer à la fois sur des valeurs du Japon, et en même temps traversé par les valeurs nouvelles américaines, et en devant faire un choix. Alors c'est vrai que j'ose pas trop en dire, tellement moi j'étais happée par le film, parce que il m'a semblé qu'en fait, que quand même Kurosawa, indépendamment de la qualité, de la minutie du détail, du jeu absolument formidable des acteurs, du rapport, je dirais, de l'architecture de cette maison en hauteur, puis ensuite des bas-fonds. Mmh. Et le bas-fond qu'on a en premier temps ne sera pas assez que ce bas-fond, si on a vu Dodeskindend, on se rappellera de la pauvreté au sens le plus radical chez Kurosawa. Mais là, qui est filmé aussi, mais en noir et blanc, mais d'une manière, je dirais, sidérante. C'est carrément... Vous aimez les zombies, n'hésitez pas à acheter ce DVD. Et en fait, il y a cette issue qui est absolument merveilleuse parce que tout se joue sur la question de « dois-je ou pas ?» ressembler à l'autre. Et l'autre, c'est à la fois mon voisin, c'est le type d'en bas, dans le ghetto, enfin dans la pauvre, dans le boui-boui, quoi. Et c'est aussi l'américain. L'idée du capitalisme derrière ceux qui font des affaires. Et ce film ne cesse d'osciller dans ce double rapport. Et la scène finale, qui est absolument prodigieuse, avec un jeu de miroir, qui est déjà anticipé par un jeu de miroir dans des lunettes noires de ce kidnappeur, c'est prodigieux. Avec, je trouve, une maestria, mais incroyable.
Dodeskindend et Barbarousse, ce seront les deux derniers titres de cette formidable collection de Wild Side. Pour l'instant, on reste sur Entre le ciel et l'enfer, Olivier Lame.
Oui, cette histoire de capitalisme qui est passionnante, qui était déjà au cœur de Yojimbo et Sanjuro, qui ont été réédités il y a peu, avec ces deux corporations qui se faisaient la guerre pour récupérer un monopole en fait dans une ville et qui était voilà qui se retrouvait dos à dos et c'est un film qu'il faut absolument conseiller aux gens qui pensent que Kurosawa est un maître un peu académique qui est un maître parce que ça fait partie d'une on va dire d'une partie de la cinématographie de Kurosawa qui est extrêmement impure au sens vraiment à la fois culturel et artistique du terme. C'est son pic populaire au Japon avec Yojimbo, je crois que c'est son deuxième plus grand succès au Japon et ce sont des grands films populaires, c'est un thriller. Donc et autant dans la musique que dans la facture que dans le nombre de problématiques très contemporaines qui sont soulevées par le film. C'est un film ô combien attaché à son époque. C'est un film qui aussi est celui d'un maître, on va dire, d'un réalisateur absolument à son pic, je pense, en termes de méticulosité et de précision d'art cinématographique. Il faut absolument chaque moment du film, et pourtant Dieu sait que le film est varié dans ses trois séquences, comporte un nombre de faits d'armes, de mise en scène absolument. Enfin, je veux dire, à tous les gens qui se demanderaient ce que peut être la mise en scène, ce que veut dire une mise en scène au cinéma, parce que Dieu sait que c'est une question qu'on peut se poser devant certains films populaires aujourd'hui. Là, on a typiquement le champ contre champ, ça n'existe pas chez Kurosawa. Là, on a des scènes de ce qu'il arrive à faire dans un appartement à huis clos avec on va dire une famille avec deux adultes, un enfant et puis quelques policiers. C'est absolument prodigieux. C'est-à-dire que d'un moment à un autre, on a des scènes de groupe, on a des moments où des personnages sont isolés, ils se retrouvent pris dans un cadre. Ensuite, ils évoluent. Il y a des moments où c'est et tous les enjeux de mise en scène servent à raconter l'histoire. C'est-à-dire que jamais évidemment la mise en scène surligne, jamais elle est ostentatoire. En permanence, elle est d'une fluidité absolument incroyable. C'est, je pense qu'en termes de mise en scène de thriller, il y a très peu d'équivalent. Enfin, Hitchcock évidemment, mais on est à ce niveau-là de mise en scène. C'est absolument prodigieux.
Mais c'est Hitchcock, mais avec ce qui m'a, pardon, je vous laisserai poursuivre. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est comment il travaille les groupes d'hommes, parce que il y a notamment le début de la deuxième partie, on va dire, qui est les policiers entre eux qui récapitulent tous les maigres indices qu'ils ont. Donc ils sont, je sais pas, une vingtaine, une trentaine dans une salle, ils sont tous en train de fumer, ils vont se lever par binôme pour faire le point de l'axe de l'enquête que le binôme est en train d'étudier. Et là, cette fluidité, et il y a souvent ces groupes comme ça qui vont tous se pencher sur un magnétophone et c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est vraiment une chorégraphie et un langage des corps qui est absolument saisissant. Alors certes, les femmes sont quand même à peu près exclues, alors il y a des zombies, puis il y a la femme au foyer dont on voit la tenue vestimentaire évoluer aussi au film du film et qui raconte évidemment beaucoup de choses. Olivier Lama.
Superbe, Kyoko Kogawa, moi je trouve qu'elle est une grande actrice chez Ozu, moi je trouve qui finalement est beaucoup plus importante que je crois que Kurosawa a beaucoup dit qu'il s'intéressait peu au rôle de femme, après Rashomon en gros. C'est faux, il y a systématiquement des personnages de femmes qui sont très importants, même si là bon c'est un film de policiers, c'est un film d'hommes, c'est un film de bonhomme, mais c'est un film très très ambigu aussi en termes de morale, puisque jusqu'à la fin du film ce ravisseur terrifiant, qui est vraiment terrifiant, qui est un vrai psychopathe. Jusqu'à la fin, on ne sait pas. Voilà, je veux pas en dire trop sur puisqu'il finit par parler à la fin, mais c'est prodigieux. Et ce moment absolument incroyable où le ravisseur rencontre la victime, et on se demande à ce moment-là, il y a pendant demi-seconde, on se demande s'ils n'ont pas fait le coup ensemble. Et non, c'est juste un pur moment de vice de la part du ravisseur. C'est absolument prodigieux. C'est un film qui vous fait passer par un nombre d'émotions. Voilà. Et sans me parler, finalement, la leçon de cinéma absolument incroyable que c'est, quoi.
Bon. Rien à ajouter, il faut se procurer.
Non, moi
je l'avais jamais vu, hein, ce film-là.
Non, moi non plus, mais je pense que ne pas le voir serait vraiment, je pense, ça serait mourir avec quelque chose qui manque.
Hein. Ça c'est pas mal comme phrase de fin pour parler de ce DVD Entre le ciel et l'enfer. C'est un film de 1963, signé Akira Kurosawa. Il est au cœur de cette collection où on trouve à chaque fois un Blu-ray, un DVD, un livret avec. Évidemment, plein d'informations sur lui. Très bien fait. De très belles photos, évidemment, aussi. Si on peut se faire offrir, évidemment, cette collection, si on a envie de l'offrir à d'autres, il faudrait surtout pas se gêner. Kurosawa, les années tôt, c'est le titre de cette collection de 17 films, encore deux à paraître. Donc, ça veut dire qu'il y en a déjà 15. C'est en cours de parution chez Wildside.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute cinéma, on continue à réviser nos classiques grâce à Carlotta, cette fois qui ressort demain en version restaurée. Trois films de jeunesse de Roman Polanski, Le couteau dans l'eau, Répulsion et Cul-de-sac. C'est à ce dernier, sorti en 66, juste avant le départ du cinéaste pour Hollywood, que nous allons nous intéresser pour plusieurs bonnes raisons. Commencer par le fait que c'est un film qui m'avait beaucoup impressionné la première fois que je l'avais vu, il y a très longtemps, j'étais curieux de le revoir. Et au-delà de cette anecdote, le film dont Polanski co-signe le scénario avec Gérard Brach est une étrangeté à bien des égards. C'est un film qui a reçu l'Ours d'Or à Berlin en 66. Et au début du film, on voit deux gangsters mal en point tomber en panne en voiture sur une route qui mène à une presqu'île et puis la marée montant. Ils vont devoir rester sur place.
Come on! Come on, you murderers!
An ambulance, you mean?
An ambulance? You want an ambulance, Alfie?
Well,
you see, you don't want an ambulance.
Is your name B?
What?
Felix B.
No. We borrowed it.
No. You know, we mustn't spoil this lovely kite. Must remind it of Horace. Or else when we want it to fly, it won't work.
You let your filthy little brat get up to his disgusting tricks. Besides, I know perfectly well why you came.
Get up, you Horace! It's time!
It's time!
Let me use my electric razor.
I told you it tears my flesh. I got delicate skin.
Teresa showed you the castle.
Come along, darling. Bye. Baba, try to get over again. Let me try the messenger.
Nobody's insulting you, sweetie pie.
Mais non, personne ne t'insulte, ma petite poupée, ou quelque chose comme ça. Non, je ne parle pas Olivier Lame, hein, je reprends une ligne de réplique de Donald Pleasence, qui joue donc l'hôte malgré lui à sa jeune épouse, interprétée par Françoise d'Orléac dans ce film. Vous l'aviez déjà vu, Olivier Lame, ce cul-de-sac de Polanski?
Non, je ne l'avais jamais vu, parce que je pensais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, que c'était un film, c'était un Polanski mineur de cette époque-là, par rapport à Répulsion, alors que quand on s'intéresse un peu au sujet, on se découvre qu'en fait, Polanski en fait a fait Répulsion pour pouvoir faire Cul-de-sac, qui est un film qui lui tenait bien plus à cœur. Et on, je suis pas sûr que le film soit aussi marquant, on va dire, en termes de projet de cinéma que Répulsion.
Mais c'est parce que Répulsion est quand même plutôt assez connu que j'ai préféré qu'on parle ce soir de cul-de-sac, justement.
Mais pour autant, le film est assez passionnant à bien des égards. On parlait donc à l'instant de Kurosawa, on parlait de ce que c'était que cette chorégraphie, de ce qui se passait à l'intérieur d'un cadre de Kurosawa. Là, ce qui se passe à l'intérieur d'un cadre de Polanski, ça n'a rien à voir. Puisqu'on a l'impression que ces corps-là passent leur temps à faire des choses inattendues. On a l'impression, on ne sait pas si c'est des danseurs, des acrobates, ou si ils passent leur temps à se tomber dessus, à se rouler, à sauter. Donc, il peut se passer littéralement n'importe quoi à l'intérieur d'un plan, si possible s'il y a une poule et qu'on peut lui mettre un coup de pied en passant. La grande question, c'est est-ce que Polanski avait lu Beckett à l'époque, puisque le film est, voilà, on aurait pu s'appeler. La réponse est oui.
Parce qu'en fait, c'est qu'il attendait d'avoir les droits dans l'attendant Godot, qu'il n'a jamais eu. Il a dit, bon, en attendant les droits dans l'attendant Godot, je vais faire un film.
Bon, voilà, maintenant qu'on a dit ça, on a sorti le grand mot Beckett. C'est un film éminemment beckettien, puisque évidemment, autant dans ces deux gangsters, un peu Laurel et Hardy, un peu, enfin voilà, qui sont... Qui porte énormément de choses, qui sont aussi des personnages de cirque. Évidemment, tout le questionnement, on va dire, métaphysique du film pourrait être celui d'une pièce de Beckett. Pour autant, le film est beaucoup plus fantaisiste que ça, et notamment grâce au jeu de Donald Pleasence, de Françoise Dorléac, qui se passe des choses, et aussi de cet acteur américain, c'est évidemment son nom m'échappe, qui est...
Sander,
qui est absolument prodigieux dans le film, qui est pareil quand on
une
lit,
fois je me rappelle le nom, je me lève.
C'est non mais qui est là avec son à la fois avec sa voix hyper et son histoire, puisque c'est un comédien américain qui avait quitté les États-Unis suite à la chasse aux sorcières, voilà, soupçonné d'être communiste et qui était visiblement une force de la nature et aussi une force d'autodestruction absolument incroyable, et la tension qui était évidemment palpable, je pense, sur le plateau, se ressent à l'écran en permanence. On a l'impression qu'ils vont se sauter dessus, sauter à la gorge en permanence. Il y a un des plus beaux, je pense, plans séquences de l'histoire du cinéma.
Carrément. C'est quoi?
Sur une plage, un moment absolument incroyable avec Françoise Dorléac nue à deux reprises, qui s'en va et qui revient, un avion qui passe au loin, un coup de feu, enfin et le soleil qui se couche. Tout ça, on a l'impression que tout le film pourrait être contenu dans ces, je crois, 7 minutes. À l'époque, c'était le plan séquence le plus long de l'histoire du cinéma. Bon, depuis, on a fait bien plus long, mais...
Il avait battu la soif du mal, alors. Je savais pas. À l'époque.
Oui, à l'époque.
D'accord.
Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pas le plus grand Polanski, et pour autant, on a l'impression que le cinéma pouvait aller dans n'importe quelle direction à cette époque-là, et c'est toujours réjouissant à voir. Ça m'a fait penser un peu à ce film de Skolimowski, qu'il a fait à peu près à la même époque en Belgique, Le Départ, avec Jean-Pierre Léo. On a l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand dans le film, de l'ultra-violence, de l'amour, des choses très drôles aussi, et c'est un film qu'il faut pas oublier.
Corinne Rondeau sur Cul-de-sac de Roman Polanski, qui ressort demain.
Alors moi je ne l'avais pas vu non plus, et c'est le seul des trois premiers films que je n'avais pas vu, je crois. Alors effectivement, il a la facture beckettienne, puisqu'en fait la voiture sur la route, déjà on s'aperçoit que quelqu'un la pousse, parce qu'on voit des pas sous la voiture, on se dit mais on la pousse, et le personnage qui est au volant a une tête beckettienne.
Oui, complètement.
Et en fait, Beckett a refusé, je crois, bien les droits à Polanski de le filmer. Et alors, moi, je trouve que tout se joue dans la corpulence et dans l'énergie des corps eux-mêmes. Donald Pleasence est totalement... on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, mais il vous fait peur à chaque plan, quasiment, tellement il serait prêt à avoir soit un anévrisme, soit à casser l'écran. que je trouve qu'on retrouve, sans la psychologie trop massive qu'il peut y avoir sur d'autres films de Polanski, il y a quand même toujours ce rapport ultra noir et cynique sur la bourgeoisie, les petits commentaires, les petites attitudes, autour de cette... Donc, ils sont isolés, la mer va monter tous les soirs, il y a la marée, c'est deux jours comme Beckett, c'est deux jours aussi, puisqu'il y a deux actes dans En attendant Godot, il y a ce coup de fil pour En attendant Kettelbar qui ne viendra pas, comme Godot qui ne viendra pas, donc vraiment on est dans une littéralité absolue de Beckett là-dessus, et ce qui moi m'a fasciné par ailleurs, c'est qu'ils sont en haut d'une butte et un château du XIe siècle. Et ce qui est formidable, c'est que tout est ouvert, ça s'appelle cul-de-sac. Et on a et tout le film est, en fait, on n'est jamais enfermé qu'à condition de vouloir être enfermé. Et tout ce film se joue jusqu'à la potentialité de la sortie. Comment va-t-on sortir? Parce qu'il faut bien sortir quand vous êtes sur une butte et qu'il y a la mer partout avec une route. Vous n'allez pas me dire que même si vous n'avez pas une voiture, vous ne pouvez pas prendre une route à pied. Et c'est ça qui est formidable avec ce film, je trouve. Au-delà du jeu qui m'a un petit peu fatiguée parce que c'est tout le temps virevolant, virevoltant, vire évrier. Donc au bout d'un moment, on le trouve génial et virtuose, plaisante, mais c'est pénible quand même. Je trouvais plutôt Sander avec beaucoup d'élégance, son côté boxeur, mais avec l'élégance quand il devient le maître d'hôtel finalement pour servir les verres. Je trouvais cette scène où Françoise d'Orléac lui dit « mets le plateau ».
Parce qu'ils ont les visiteurs imprévus, donc il faut cacher les choses.
Visiteurs imprévus. Mais c'est fort parce que rien ne se...
Dont Jacqueline Bisset. Oui, qui est tombée à la renverse de beauté, quand même.
Oui, mais dans deux plans, mais en fait, de 10 secondes.
Ça s'appelle Jacqueline Bisset, d'ailleurs, au générique.
Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est cette manière de dire vous ne serez jamais enfermé que si vous avez décidé d'être enfermé. Donc, la claustrophobie, c'est juste un problème de soi, et c'est pas du tout un problème de... Et je crois que les gens qui sont en train de se heurter dans le cadre, comme vous le disiez, Olivier, c'est une manière de dire, mais où est la sortie? C'est juste à côté, là. Vas-y. Et donc, ils sont trop énervés pour savoir comment ils peuvent sortir. Donc, évidemment, quand ça s'énerve, ça finit mal.
Alors, c'est vrai que je vous dis que ça m'avait impressionné quand je l'avais vu il y a fort longtemps. Mais ça m'a tellement impressionné que je croyais que c'était Donald Pleasence qui faisait le méchant. Parce que, en fait, effectivement, vous le disiez, c'est lui qui fait peur. Mais c'est lui qui est quand même fascinant. Parce que je suis d'accord avec vous, moi, ce genre de jeu très outré comme ça, aujourd'hui, ça me fatigue assez rapidement. Mais lui, il est quand même fascinant, à un côté athlétique, notamment toute la... Le début du film, le premier quart d'heure, une façon de bondir d'une chaise à un lit. Enfin, il a un corps extrêmement athlétique.
Comme un enfant.
Et qui après va complètement se recroqueviller quand il va y avoir le grand méchant. Donc il y a cet effet-là. En tout cas, voilà. C'est aussi un film où il peut effectivement se passer n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça ne manque pas d'arriver. Parce qu'il se passe quand même assez souvent n'importe quoi dans ce film.
Oui, même quand il se passe des choses très simples, c'est mis en scène de telle manière à ce que ça soit, il y a une impression d'étrangeté immédiate. Au début du film, on voit un homme marcher sur les mains et on se dit c'est Bosch, puisque c'est une peinture de Bosch, parce qu'on les voit sortir de la voiture, ils montent et on explore ce château très étrange au bout d'une je sais pas si on est au Mont-Saint-Michel ou en fait on est dans le nord de l'Angleterre. Bref, et quand on le voit marcher sur les mains, on se dit il y a des monstres, enfin, et tout le film comme ça tout est montré de manière à ce que, enfin, je pense que la sortie, ce que sous-entend Polanski, c'est qu'il y en a pas. En fait, la sortie, c'est la mort. Enfin, je pense. D'ailleurs, la fin du film est très, très désespérée à ce niveau-là.
Bon, vous pourrez la découvrir dès demain, ressortie en version restaurée sur les écrans de trois films, les trois premiers de Roman Polanski, Le Couteau dans l'eau, Répulsion, et puis donc ce cul-de-sac dont nous parlions à l'instant. Et c'est l'heure du jeu de la dispute. Et Justine Dibling nous a rejoint pour nous livrer la réponse du jeu d'hier soir. Mais tout d'abord, elle nous en rappelle la question, Justine.
Donc, c'était Sébastien Laudenbach, fait partie des lauréats du prix France Culture Cinéma 2017 avec Costa Gavras et Rudy Rosenberg. Mais en quelle année a été créé ce prix? Et la réponse était en 1999.
Et on fait gagner ce soir des DVD du film L'Ornithologue de Jean-Pedro Rodriguez, distribué par Épicentre. Quelle est donc la question, Justine?
Dans quel autre film du réalisateur João Pedro Rodriguez nous sommes amenés à suivre la transformation d'un personnage mystérieux dans une quête solitaire?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions. Vous pouvez aussi vous y abonner au podcast. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. On va garder Corinne Rondeau jusqu'à demain soir puisqu'elle retrouvera Frédéric Bonnet pour parler de Le Mystère, le Nain, c'est au Louvre-Lens, Le Pouvoir des Fleurs, Pierre-Joseph Redouté au Musée de la Vie Romantique. On évoquera aussi plus rapidement Géométriquement douce de la galerie Jean Fournier et puis la
Biennale de Whitney à New York. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture, 22h15, les discussions du soir, dans quelques instants, le journal de la rédaction.